OK, bonsoir. J'invite à tourner avec moi dans... Hey boy, hein, Richard, ça commence bien. Il baille au cornet, ouais, il dort. Hein? Tu le feras pas deux fois, hein? Hébreux 1, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, faut que tu prennes des trucs à Gaétan, là. On termine, comme je disais, sur les anges. On ne parlera pas spécifiquement des anges, mais plutôt de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est supérieur aux anges. Dans notre culture, dans notre compréhension, on ne sait pas nécessairement une grande difficulté que d'imaginer Jésus, Dieu, au-dessus des anges. À cette époque-là, pour les Hébreux, ils pouvaient rendre un culte aux anges, ou en tout cas, on va l'expliquer au fur et à mesure, ben c'était pour eux une tentation que d'abandonner le christianisme, d'abandonner ce qu'ils avaient placé leur foi en Christ, qui était mort pour eux, puis retourner à des anciens principes judaïques, et puis à la loi, puis même à divers cultes. Et puis, mais quand même, ce que l'auteur, parce qu'on connaît pas nécessairement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce qu'il va enseigner aux Hébreux va nous être utile pour justement regarder c'est qui Jésus. L'Épître aux Hébreux est une épître pas nécessairement simple, si je peux dire, d'un premier abord, parce qu'il y a beaucoup de ramifications qu'on peut tirer justement avec l'Ancien Testament. On va lire un texte tantôt où il y a une série subséquente de textes de l'Ancien Testament et qui sont toutes placés un à la suite de l'autre. Alors, c'est pas nécessairement un texte d'un psaume, mais c'est plein de textes qui sont placés. Puis Hébreu, il est truffé de textes comme ça de l'Ancien Testament. Et puis, c'est pratiquement, j'exagère un petit peu, là, mais pratiquement une thèse que l'auteur a voulu monter pour élaborer justement la personne de Christ et toute son œuvre et tout ce qu'il est par rapport à tout système et par rapport à l'ancienne alliance et comment est-ce que la nouvelle alliance maintenant elle est. Et le premier chapitre de Hébreux, le deuxième chapitre de Hébreux, ben va justement parler la supériorité je pense que c'est le meilleur mot qu'on peut utiliser, la supériorité de Christ par rapport aux anges. Et en fait, on peut prendre ange, comme je dis, on l'a étudié pendant un temps, puis on peut être épaté, intéressé, curieux de ce que les anges peuvent faire, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et puis, il y a beaucoup de mystères associés à ça. Mais derrière la création des anges, il y a un créateur, qui est Jésus, par qui et pour qui a été créée toute chose. Fait que ce que je vous suggère ce soir, c'est qu'on regarde la personne de Christ, supérieure aux anges, à travers l'Épître aux Hébreux des deux premiers chapitres, particulièrement. Fait que j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Puis après ça, on va essayer de regarder simplement ce que la parole de Dieu nous dit. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu qui se fait connaître. Tu n'as pas voulu, Seigneur, rester caché. Tu n'as pas voulu nous abandonner, mais tu avais un grand intérêt pour nous. Et tu l'as manifesté d'une façon concrète en nous donnant ton propre Fils pour qu'on puisse retrouver, Seigneur, une communion, être réconcilié avec toi. Et ce soir, on veut prendre le temps d'ouvrir ta parole, cette parole que tu nous confies, pour qu'on puisse apprendre à te connaître, découvrir qui tu es. Et que Dieu, on veut pas seulement ou simplement se remplir nos têtes de connaissances et de compréhension de ta parole, bien que c'est pertinent. Mais au-delà de ça, Seigneur, on veut te connaître. On veut vivre avec toi au jour le jour. Et que ta parole, Seigneur, vienne parler à nos cœurs pour qu'on puisse continuer, Seigneur, de persévérer, continuer d'être fidèle, de serrer ta parole dans nos cœurs pour pas qu'on pêche. Nous allons de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, bien que les anges soient des créatures puissantes, ayant des possibilités bien au-delà de celles des hommes, il ne convient en aucun cas de les prier. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, le culte des anges n'est pas nécessairement très répandu, mais la curiosité portée vers les anges est quelque chose de très répandu. Hein? Vous avez entendu parler de la Bible des anges, ou peu importe, là, on a tous les noms de livres récemment qui sont sortis en ce qui concerne les anges. Et alors, il ne convient en aucun cas de les prier ou de leur apporter un culte. Devant la grandeur des révélations faites à Jean, dans l'Apocalypse, on en avait parlé, à un moment donné, Jean avait eu un ange qui lui avait été envoyé pour être son compagnon dans un sens de ce qui allait être révélé. Et puis, à un moment donné, Jean, avec toutes ces choses qui lui étaient révélées, avec son compagnon qui était un ange, qui était tout près de lui, puis qui l'accompagnait, bien, Jean, il tombait en adoration devant cet ange-là. Et puis, l'ange l'arrêtait immédiatement, puisqu'il était un ange de Dieu, puis il disait, ben garde-toi de le faire, parce que je suis ton compagnon. Ton compagnon d'esclavage, ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Alors, cet ange-là retournait l'adoration à Dieu. Et c'est lui qu'on veut voir ce matin. Jamais les anges, du moins, qui appartiennent à Dieu, qui sont encore d'allégeance divine, n'acceptent l'adoration. Et tout honneur est dirigé vers le Maître. Mais ça devrait être notre attitude aussi, hein, même en tant qu'enfant de Dieu. Toute gloire revient à Dieu. Toute gloire devrait lui être retournée, être redirigée. Cet ange-là nous laisse un témoignage pour nos propres vies d'une attitude à appliquer. Alors, celui qui par amour a été fait un peu moindre que les anges, en dessous des anges, à cause de la passion de la mort, est plus excellent qu'eux. Vous avez trouvé Hébreux? J'aimerais qu'on fasse la lecture. Je vais lire les trois premiers versets qui ne concernent pas nécessairement les anges. Et après ça, on va avancer sur les preuves montrant la supériorité, beaucoup de syllabes là-dedans, hein? La supériorité de Christ par rapport aux anges. Trois preuves qu'on va voir. Commençons par les trois premiers versets quand même, pas passer par-dessus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutient toute chose par sa parole puissante. C'est par la parole de Christ, il soutient toute chose. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pour un juif qui lit ça, là, ça punch. Mais pour un chrétien aussi, que Jésus qui soutient toute chose par sa parole puissante, qui est le Fils de Dieu, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il n'y a pas grand monde qui ont ce calibre-là, si je peux dire, de personne, et uniquement Jésus-Christ. Alors, commençons avec les versets 4 à 14. Je vais vous poser une première question. On va voir la première preuve qu'on voit dans les versets 4 à 14, c'est les preuves à travers les Écritures que Dieu nous a laissées qui nous montrent la supériorité de Christ. L'auteur va utiliser dans les 10 prochains versets les preuves à travers l'Ancien Testament, le témoignage de Dieu, des preuves qui montrent que finalement le Fils qui vient est supérieur aux anges. Quelles sont ces preuves-là? On va lire ces versets-là. Peut-être deux volontaires, versets 5 versets chacun. Deux volontaires, mettons 4 à 9, puis l'autre 10 à 14. Un volontaire 4 à 9? OK, Mélissa. Puis 10 à 14, un autre volontaire? OK, Daniel. OK. L'auteur nous fait une série de textes trouvés de l'Ancien Testament, sans apporter toutes les références qui sont citées par l'auteur. L'auteur nous apporte plusieurs références. C'est quoi les preuves qui ont été cherchées dans l'Ancien Testament qui démontre la supériorité de Christ? Quels sont les éléments prouvant la supériorité du Fils? Commençons avec les premiers versets. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Il est placé en parallèle ou en opposition le Fils et les anges. Comment l'auteur montre-t-il que le Fils est supérieur aux anges? Son nom, qu'est-ce que ça veut dire ça? Où tu trouves ça premièrement? Verset 4. OK, il est devenu d'autant supérieur aux anges. Voici le début de l'argument. D'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qu'est-ce que ça veut dire? « son nom ou son grade, genre, on se laisse la question en suspens, on continue de commenter. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, le fait que Jésus ait un nom supérieur à ceux des anges? Hein, comment? Il est très au-dessus. Ouais. Parce que quoi? Il est Dieu. OK. Où il va? OK, parce qu'il est le Christ, il est le Messie. Alors, OK, absolument. Oui. Le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'il y a un texte que ça vous fait penser, ça, quand on dit ça? Quel texte ça vous fait penser? Oui, Dieu avec nous. Oui. 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 À quel autre texte ça vous fait penser qu'il nous a donné un nom supérieur? OK. Ésaïe 9.5. OK. Et des titres aussi, absolument. OK, mais c'est, tournez avec moi, reculez un petit peu, là, gardez votre place dans Hébreu, puis reculez dans Philippiens. C'est un texte auquel on fait référence souvent pour parler justement de la divinité de Christ. Philippiens 2. Verset 9. Alors, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Père a rendu témoignage au Fils en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est uniquement accordé à lui dans un sens. Évidemment, il y a des gens, par exemple dans l'Ancien Testament, Yeshua, qui était peut-être traduit Josué, qui a le même sens que Jésus, qui est traduit en grec. Ce nom-là était relativement connu, commun, utilisé. Mais ça a un sens beaucoup plus honorifique quand on dit que le Père a fait de son nom, évidemment, cette personne-là, en lui donnant, en reconnaissant son identité, en le plaçant au-dessus de tout nom. Verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce que le Père a fait, c'est que il a pris le Fils qui s'est lui-même humilié, et le Père l'a pris, et le Père, lui, a rendu témoignage au Fils en disant, « Il a la même gloire que moi. » Et alors, c'est le témoignage du Père vers le Fils qui fait que ça donne toute la crédibilité aussi au Fils, entre autres, un des témoignages que le Père a rendu au Fils et que le Père a donné comme témoignage en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 4, si on revient dans Hébreu, « Mais il est devenu d'autant supérieur aux anges. » Alors, que tout genou, tant ce qui est sur la terre que sous la terre, que toute domination, ben incluant les anges, ben que qui a hérité un nom plus excellent que le leur. Alors, première des choses, le nom qu'il a reçu est supérieur à n'importe quel autre ange. Si on peut penser à l'ange le plus grand que Dieu ait créé, était Lucifer, le plus beau, le plus grand, et alors même le nom que Satan, ben, que Lucifer avait à ce moment-là, ben il n'avait pas le rôle que le Fils a. OK, quoi d'autre aussi? On continue dans Hébreu, verset 5. C'est pas tout simple, hein. Je pourrais pas tout expliquer non plus. J'ai pas moi-même toute la connaissance pour expliquer tous les éléments qui y sont. Mais quelle autre preuve est-ce que l'auteur apporte? Tu es mon fils? En quoi est-ce que ça, c'est une preuve qui nous montre que le fils est supérieur aux anges? OK? Auquel des anges Dieu a jamais dit ça? Tu es mon fils. Dieu n'a jamais dit ça à aucun ange. Dieu n'a jamais dit ça à aucun ange. Il l'a dit au fils. Tu es mon fils. Ça veut dire quoi ça? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. En quoi est-ce que ça, c'est un argument qui montre que le fils est supérieur aux anges? Oui, Priscilla. OK. Ils emploient l'expression « fils de Dieu » pour parler des anges, justement, est utilisé pour montrer la création directe de Dieu sur les anges et sur chacun des anges. Alors, contrairement à nous, on est une race. Alors, Dieu a créé Adam et Ève, puis ils se sont multipliés, tandis que les anges, Dieu les a créés chacun d'entre eux. C'est dans ce sens-là qu'ils sont fils de Dieu. Et au sens que nous, la vie que Dieu nous a donnée par sa mort et sa résurrection, nous sommes fils de Dieu par la résurrection. Alors, chacun d'entre nous, Dieu nous a fait devenir un enfant de Dieu, nous a régénéré ou recréé, et qu'on est devenu un fils de résurrection. Bref, c'est l'intervention directe de Dieu sur chacun des anges qui fait qu'on les appelle fils de Dieu. Oui, Michel. Oui. Oui. Absolument. Alors, il y a une différence importante entre engendrer et créer. C'est quoi la différence? Comment? OK, absolument. OK. De là, la relation entre il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Ils sont de la même génétique, engendrés. C'est la même racine. Alors, ils sont issus, le fils est issu de la même nature que le père. C'est ça que ça veut dire. Engendré, c'est qu'il est issu de la même nature que le père. Ben, on pourrait passer probablement beaucoup de temps encore sur ces deux versets-là. Ces deux versets-là, c'est-à-dire ces deux lignes-là, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Et c'est dit dans le psaume 2, verset 7. Il est recité aussi dans Acte 13. Tournez avec moi dans Acte 13, verset 33. Le symbole de Nicée, vous avez peut-être, on y a fait référence tantôt en parlant engendré, non pas créé. Dit, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, engendré et non créé, d'une même substance, consubstantielle, que le Père et par qui tout a été fait. Acte 13. À partir du verset, on peut lire, Paul est en train de résumer dans un sens tout le procès et ce qui s'est passé avec Jésus de sa mort jusqu'à sa résurrection. On peut lire à partir du verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, on voulait des promesses tantôt, en voilà une autre, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. » Dans quel contexte est-ce que le verset 33, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » est cité? C'est quoi le contexte dans lequel le Paul va dire? Il fait référence à l'Ancien Testament, comme disait le psaume 2e. Mais pourquoi il cite le psaume 2e? Dans la tête de Paul, là, il révèle quoi ce psaume-là? Psaume 2:7. Dans quel contexte est-ce qu'il l'utilise? Que Jésus est ressuscité? Que la promesse est accomplie? La promesse est accomplie. Regardez, le psaume 2 dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Paul utilise ce texte-là pour dire, ben Dieu l'a, verset 33, « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Père a reconnu ou a attesté, approuvé, démontré, témoigné que le Fils était de sa nature, était issu de sa même nature, et le Père, en l'élevant et en le faisant asseoir à sa droite, mais témoignait à tout le monde qu'il était son Fils, que Jésus est Dieu. C'est une chose tellement importante dans notre compréhension, sans vouloir aller trop loin dans notre intellectuellement, là, je pourrais dire, là, mais c'est tellement important dans notre conviction, dans notre doctrine, de croire ces éléments-là de la divinité de Christ, de croire que Jésus est Dieu, qu'il est divin et qu'il est de la même nature que le Père. OK, on va continuer dans Hébreux. Vous pouvez y revenir. Quoi d'autre aussi est-ce qu'il dit comme preuve? Quelle preuve est-ce que l'auteur va utiliser pour démontrer que Jésus est de loin supérieur aux anges? Abandonnez pas Jésus pour tourner vers d'autres choses. Jésus est supérieur aux anges. OK. Tous les anges l'adorent. Est-ce que c'est assez convaincant comme argument? OK. Si moi j'adore les anges, puis les anges adorent Dieu, ben c'est aussi bien d'aller directement adorer Dieu. C'est un peu ça l'argument de l'auteur. Et de nouveau, verset 6, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, le culte aux anges est complètement inutile, puisque même Dieu a ordonné que les anges l'adorent. Qui est le seul être digne à recevoir l'adoration? Sinon Dieu. C'est Dieu uniquement qui peut recevoir l'adoration. Dieu a ordonné aux anges d'adorer le premier-né. Qu'est-ce que ça témoigne de Dieu envers le premier-né? Mais que le premier-né, il est Dieu. Le premier-né est un titre encore là honorifique, dans le sens qu'il est le premier. On pourrait lire Colossiens, là. On l'avait lu, je pense, la semaine passée. Mais il est le premier-né, celui qui est au-dessus de la création, celui par qui et pour qui a tout été créé. Alors, les anges de Dieu l'adorent. Dans le verset 7 à 9, l'auteur met en parallèle deux témoignages que Dieu a rendus. C'est quoi? Dans les versets 7 à 9, Dieu a rendu un témoignage. C'est quoi ces deux témoignages-là? Puis comment est-ce qu'ils sont en comparaison pour apporter la preuve que Christ est supérieur aux anges? Comprenez-vous ma question? OK, on va lire les versets 7 à 9. De plus, il dit des anges. C'est qui parle? Qui dit des anges? C'est Dieu. OK? Verset 7, mais je cherchais... c'est parce que je fais référence au point de départ, le verset 5, il dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? » Et là, on commence des citations de Dieu. Là, c'est important pour les prochains versets, OK? Il faut se placer dans la tête que voici des citations que Dieu a dites. Dieu a dit « Tu es mon fils, je serai pour lui un père, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, verset 7, il dit des anges. C'est Dieu qui parle. Il fait de ses anges des esprits de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, c'est encore Dieu qui parle. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est quoi que l'auteur est en train de dire? C'est comparer ce que Dieu a dit des anges et ce que Dieu a dit de Dieu. ce que Dieu a dit de Dieu. C'est intéressant, hein? Quand on prend le temps de regarder ce qu'il est en train de dire, le verset 7 est en train de dire, mais Dieu a dit aux anges, ben les anges, ça allait être des esprits, les serviteurs, une flamme de feu. Ça, c'est, il est en train de citer le psaume 104, 1 à 5. Alors, les anges, mais regardez le verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce qu'il est en train de dire, c'est, tous les anges, Dieu les a dans sa main, puis il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut avec les anges. Mais c'est un peu ça qu'il est en train de dire au verset 7. Il en fait ce qu'il veut, là, des anges. Mais le verset 8, mais, il dit au Fils. Qu'est-ce qu'il dit au Fils? Ton trône, OK, est éternel. Comment est-ce que le Père appelle le Fils? Dieu. C'est intéressant, hein? Le témoignage du Père envers le Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voici ce que le Père témoigne du Fils. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est particulier, hein, ça aussi? Hein, j'ai déjà fait déjà lire ça, un témoin de Jéhovah qui était venu chez nous, puis c'est la dernière fois qu'il est revenu. Il n'est plus jamais revenu après ça. Je dis, explique-moi ce qu'il vient de dire. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais c'est à qui parle? C'est Dieu qui parle à Dieu. Le Père qui parle au Fils, puis qui l'interpelle, Dieu. Alors, Jésus, c'est Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Qu'est-ce que dans les versets 8 et 9, on peut tirer comme nature, si je peux dire, du Fils, comme attribut du Fils? Quel qualificatif est-ce que le Père donne envers le Fils de ce qu'il peut témoigner? Qu'est-ce que le Père témoigne envers le Fils dans les versets 8 et 9? OK, le Père est en train de dire au Fils, tu as aimé la justice. Quoi d'autre? Jésus est juste. Quoi d'autre? Son égalité avec lui-même. Alors, ils sont consubstantiels, ils sont égaux. Le Père est en train de dire, on est de la même nature. Quoi d'autre que le Père témoigne envers le Fils? Il a haï l'iniquité, ça va avec l'idée de aimer la justice, haïr l'iniquité. Mais quoi d'autre aussi? Comment est-ce qu'il qualifie son trône? Éternel. Jésus est éternel. Fin du verset 8. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors, Jésus est éternel. Il aime l'équité, la justice. Il est supérieur à tous ses collègues et égal au Père. On continue de lire, continue de commenter à partir, mettons, du verset 10 particulièrement, à 12. Quelle autre preuve est-ce que l'on voit que l'auteur est en train de donner de la supériorité de Christ sur les anges? Oui, Jacinthe. Fin du verset 9, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Faudrait que je vérifie la question. Faudrait que je vérifie. Je ne peux pas te répondre d'emblée comme ça. Ouais. J'aurais pas tendance à penser que c'est les anges. J'aurais plus tendance, ce que je dis, je répondrais d'emblée, mais je dirais que je préférerais vérifier. J'aurais plus tendance à répondre que c'est les gens qui sont de la même nature humaine. Dans les prochains versets, là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que il est fils de Dieu. Voici les preuves de la supériorité de Christ sur les anges dans son rôle de fils de Dieu. Puis dans les prochains versets, on va parler du fils de l'homme. Alors, Jésus étant né dans notre chair, alors il nous appelle frères, ce qu'on voit un peu plus loin. J'aurais plus tendance à penser que c'est les hommes, les collègues. Oui, c'est ça. Mais il est en train de dire, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Alors, effectivement, il parle au Fils, mais c'est qui les collègues du Fils? Oui, David? Ouais. C'est ça. Mais Jacinthe, c'est une bonne question. J'ai pas pensé réfléchir à cette question-là, mais c'est une bonne question. Certainement. Bon, on va mettre ça dans la boîte à questions. Je vais vérifier, Jacinthe. Comme je disais, ma réponse spontanée serait peut-être, j'aurais plus tendance à l'attribuer à. Ben, je vais pas aller trop loin, mais j'aurais plus tendance à l'attribuer aux hommes, là, à ceux qui sont comme lui. Mais dans les versets du chapitre 2, on va parler du rôle que le Fils a joué en tant qu'homme sur la terre, de grand prêtre, de souverain sacrificateur. Alors, ça, c'est un argument qu'il va y avoir plus loin dans Hébreux, de dire, ben Jésus, qui est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, et ses égaux, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de chair, mais aussi même de rôle à travers les alliances qui ont été données, de grands prêtres. J'aurais tendance à penser que Jésus est supérieur à tout cela. S'il est un souverain sacrificateur, mais il est supérieur à n'importe quel souverain sacrificateur. J'aurais plus tendance à le voir de même. Mais je vais faire mes recherches, puis je vous reviens avec ça. OK, versets 10 à 12, inclusivement. Quelle autre preuve que l'auteur nous apporte? Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Qu'est-ce que Dieu est en train de témoigner de Dieu, le Père envers le Fils? Le Fils est créateur. Est-ce que les anges sont créateurs? Non, ils sont créatures. Quoi d'autre? Verset 11, ils subsistent. Eux, ils vont périr, mais toi, tu subsistes. Alors, c'est même l'idée des vêtements qui vieillissent. Même la création, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, on parle du Fils, tu restes le même. Tu changes pas. Et ça, c'est uniquement attribué à Dieu. Et tes années ne finiront point. Encore une autre référence à l'éternité de Jésus. On peut finir verset 13 et 14 avant d'aller un petit peu plus loin. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, il va dire ce qu'on a lu tantôt. Tous les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors, il y a dans la première section de texte qu'on voit, l'auteur apporte plusieurs références démontrant que Christ est supérieur aux anges. Comment ça s'applique ça, dans nos vies? On transpose ça là, dans notre vie pour nous aujourd'hui. Hébreux 1, ça stimule quoi dans notre marche avec Dieu, cette connaissance-là? L'adoration, la soumission, quoi d'autre? Comment? Porter nos regards uniquement vers lui. L'auteur veut vraiment apporter, les auditeurs veulent vraiment conduire nos cœurs à considérer qu'il n'y a rien égal à Jésus. Il n'y a rien d'égal à Jésus. Il n'y a rien qui mérite autant notre attention, notre amour, nos sacrifices que la personne de Christ. Il est supérieur et de loin aux anges. Si dans toute la création, on place les anges au plus haut de ce qui a été créé, Dieu, Jésus, est de loin supérieur. C'est ça que Dieu a témoigné envers son propre Fils en disant, « J'ai jamais dit ça à un de mes anges. J'ai jamais dit à un de mes anges qu'il est mon égal. J'ai jamais dit à un ange que je vais faire de ses ennemis son marchepied. C'est mon Fils, mon fils que j'appelle Dieu. Il a un trône éternel, un sceptre d'équité. Il haït l'iniquité. Il aime la justice. Il est éternel. Il subsiste. C'est lui qui a fondé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. Alors, il n'y a rien qui devrait détourner nos yeux, notre cœur, notre attention de sa personne. Il est supérieur en tout point. Si on ne se rappelle pas ça, si on ne se rappelle pas de cette importance de toujours garder nos cœurs attachés à ce que Christ soit supérieur à toute chose, c'est quoi le danger qui arrive si on oublie ça? Quel danger nous guette? OK? OK? Alexei, il n'y a plus de christianisme? Non? C'est quoi le danger si on diminue la personne de Jésus? Oui, David? Hein? Ouais. De se prendre plus au sérieux que ce que les Écritures nous donnent. OK, vas-y, complète, David. Hein? C'est ça. Hein? Hein? Évidemment, ils avaient une attention plus particulière. L'auteur cite, il fait juste, donnez-moi un instant. Verset 2, le verset suivant que tu lisais tantôt. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance, l'auteur fait juste dire, et même la parole qui a été annoncée par des anges, pour eux, on comprend qu'ils avaient une connaissance et une sensibilité plus grande, je peux dire, au monde des anges. Maintenant, je pense que là où le bas blesse avec les Hébreux, c'est pas tant les anges que l'humanité de Jésus. Je pense que c'est là le problème. Mais je vais compléter mon argument juste dans quelques minutes pour dire que je crois que pour eux, c'est beaucoup plus l'humanité de Jésus que la grandeur des anges. Mais c'est ça, je vais compléter ça. Oui, vas-y, France. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Et ça irait peut-être même dans le même sens que les trois premiers versets du chapitre 1 qui disaient que dans les derniers temps, le Père nous a parlé par le Fils. Voici le messager que Dieu a envoyé, qui est son Fils, comparativement au passé, qu'il y avait des prophètes, des messagers. Anges, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est des messagers. C'est aussi des esprits, puis ça peut être aussi des messagers. Et puis, je pense que quand même, en général, le contexte qui est donné dans Hébreu 1, c'est des esprits. Mais il le dit au verset 14, là. Mais encore là, l'idée, effectivement, justement, que le Fils est un messager qui est venu, qui est supérieur, et le message qu'il apporte est complet. Il apporte la nouvelle alliance. Là. Vincent, après ça, on continue d'avancer. Ouais. Oui. Absolument, je pense que oui, effectivement. Je pense que les Hébreux s'attendaient à quelque chose de peut-être beaucoup plus avec être là, du moins de façon terrestre. Et puis, l'auteur a cité beaucoup de paroles du Père envers le Fils pour dire, regardez là, il s'est humilié, mais pas parce qu'il s'est humilié qu'il faut lui enlever ce qu'il a. Il est Dieu. Et il faut qu'il ramène exactement, je pense que le regard des Juifs, de ces Hébreux-là, est en train de se détourner, puis il regarde à une humilité que Jésus a prise, à une humiliation, puis oublie le témoignage du Père envers le Fils. Et effectivement, il faut qu'il ramène que, ben, il disait au début, là, c'est lui qui nous a... Qui a libéré, je le disais tantôt dans Acte 13, là, mais qui a fait le pardon des péchés. Là. Et c'était ça la libération, finalement, qu'on devait attendre. Continuons, on pourra peut-être pas faire tout ce que je voulais qu'on voit, là, mais relisons une section. Je pense que ça peut ajouter, du moins, à ce qu'on est en train de dire actuellement, d'autres preuves, qui est la preuve de la souveraineté de Christ. Pour les Juifs, ça devait les amener plus loin à réfléchir que Jésus est souverain. Et l'auteur vient de le dire. Auquel des anges, le Père n'a-t-il jamais dit, « Ben, je vais donner tous tes ennemis en marchepied. » Et là, au verset 5 à 9, il va compléter cet élément-là de souveraineté du Fils, démontrant sa supériorité sur les anges, et ce, comme étant le Fils de l'homme. Quelqu'un qui veut lire maintenant le verset 5 à 9 inclusivement? Mélissa? OK. Hébreux 2, 5 à 9. OK. Pour les Hébreux, leur argument était probablement, parce que l'auteur est en train de contre-argumenter, Jésus, c'est un homme. Comment est-ce qu'un homme peut être supérieur aux anges? Les anges sont évidemment supérieurs aux hommes. Pour les Hébreux, ça devait être ça leur argument, là. Et là, en effet, verset 5, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il avait oublié la référence, lui aussi, Gaétan. Quelqu'un avait oublié ce témoignage. Il est en train de faire une citation. À quelque part, là, ça dit ça, là, dans l'Ancien Testament. On peut le retrouver assez facilement, là, dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Pourquoi l'auteur est en train de dire ça? Pourquoi l'auteur est en train de citer ce psaume-là? Je suis en train de leur dire, vous avez bien raison, l'homme à côté de Dieu n'est pas grand-chose. Pas parce que Dieu n'aime pas l'homme, mais parce que l'homme, des fois, a tendance à bomber le torse, puis penser qu'il peut être l'égal de Dieu. Puis Dieu nous rappelle à l'ordre et puis à la raison en disant, mais attends un petit peu, là, comparativement à Dieu, on est petit. Heureusement que Dieu prend soin de nous. Ou l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Et verset 7, et là, il revient en parlant de Jésus. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Effectivement, le Fils s'est humilié. Il a été placé même en dessous des anges, et même pas parce qu'il a été placé en dessous des anges, qu'il est devenu un homme, qu'il est moins que Dieu. Jésus est toujours Dieu. Et bien qu'il a été humilié au-dessus des anges, au-dessous des anges, il demeure Dieu. Et là, il est en train de dire, mais le Père qui rend témoignage, là, comme on parlait tantôt dans le chapitre 1, mais le Père lui a soumis toute chose. Qu'est-ce qui reste qui ne soit pas soumis au Fils? Ben, le Père. Il ne reste plus rien d'autre que ça. Et tout le reste qui a été créé est soumis au Fils. Parce que le Père a rendu témoignage dans le Fils en disant, voici, tout est soumis à lui. Et ça, il n'y a pas d'autre que Dieu qui peut avoir ça. Alors, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Comment ça? Tu ne comprends pas cette boîte-là, hein? Comment tu... Ouais. 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 OK. Jésus a prouvé, hors de tout doute, qu'il pouvait contrôler les éléments, multiplier le pain, changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, etc., guérir les malades, ressusciter les morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on voit de façon permanente que toute chose y soit soumise? Qu'est-ce que ça veut dire tantôt, Jacinthe? Ouais. 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 Pour une personne qui est en train de sombrer ou du moins de tomber, en train de glisser, où le verset 1 dit d'être emporté loin d'elle, qui commence à tranquillement glisser dans le doute, ben ce doute-là peut être alimenté par le fait que j'ai mis ma foi en Christ, mais comment ça se fait que je vois pas que toute chose lui soit soumise s'il est supérieur à toute chose? Ben, c'est pas encore manifesté de façon absolue. Pour cette personne-là qui est en train d'abandonner le christianisme ou sa foi, ça devenait un argument de dire, ben, on voit pas que toute chose lui soit soumise. Au verset 9, il va rajouter un mais. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. C'est vrai. Volontairement, le Fils s'est abaissé, s'est humilié comme homme, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que ça devient un argument pour dire, ben, on voit bien que toute chose ne soit pas soumise, il a été crucifié. Les gens l'injuriaient sur la croix. Mais si t'es Dieu, descends. Sauve nous autres aussi qu'on est crucifié avec toi. Mais est-ce que ça veut dire que toute chose ne lui était pas soumise parce qu'il n'est pas descendu de la croix? Mais non, il s'est volontairement humilié. C'était ça le plan de Dieu. Alors, il s'est, pour un temps, pour un peu de temps, au-dessus des anges, s'est humilié. Jésus, comment est-ce que nous qui gardons la foi puis qui alimentons la foi, on le voit aujourd'hui? On le voit couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pourquoi ça, ça sera pas long, France, pourquoi ça devrait changer notre perspective? Pourquoi ça devrait alimenter notre foi plutôt que le fait que toute chose ne nous soit pas soumise encore tout de suite nous faire sombrer dans le doute? Ouais, on a de l'espoir. Dieu veut alimenter notre foi, mais nos yeux. Quand que l'auteur dit « Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur », qui sont ceux d'entre vous qui avez vu, peut-être comme Étienne, lors de sa crucifixion, sa lapidation, c'est dans David 2.1, c'est quelque chose de genre là, mais au moment qui a été lapidé, qui sont ceux d'entre nous qui pouvons dire « Je vois le Fils, tu sais, debout, qui m'attend dans sa gloire », on l'a pas vu, mais est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous le voyez? L'auteur dit, nous le voyons. Est-ce que vous le voyez couronné de gloire et d'honneur? À cause de la foi que vous portez en lui. Comment? Par l'esprit. Je vais pas le voir avec mes yeux, mais quand je crois que le Fils est mort pour moi, il devient supérieur à n'importe quoi. Il devient au-dessus de tout. Bien qu'il s'est humilié à cause de la mort qu'il a souffert pour moi, mais je vais le voir couronné de gloire et d'honneur. Il va devenir ce que j'ai de plus cher à ma vie, parce que c'est lui qui me l'a donné. On pourrait rajouter beaucoup de commentaires, on pourrait continuer au verset 10. On va arrêter là, il y avait France qui avait levé la main tantôt. Ouais. 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 Et effectivement, le dernier ennemi, 1 Corinthiens 15, que ça nous dit, qui sera anéanti, c'est la mort elle-même. Ô mort, où est ton aiguillon? Quand les fils, les enfants de Dieu seront ressuscités, elle est où ta victoire, ô mort? La mort elle-même sera anéantie et Jésus sera le vainqueur sur la mort. Jésus est supérieur en tout point à tout ce que l'on peut connaître. Il est celui qui mérite notre honneur, notre adoration, notre toute notre être. Et il ne faut pas se détourner de cette importance, de cette pratique que l'on veut alimenter dans nos vies, de considérer la personne de Dieu comme supérieure à toute chose. Pour pas justement qu'on glisse, qu'on s'éloigne, qu'on laisse le doute, mais pour qu'avec la foi que l'on a, qu'on puisse continuer de lui attribuer la gloire et l'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, on oublie régulièrement ces merveilles que tu as œuvrées pour nous, que tu as fait pour nous. Et pourtant, même si on les oublie, on y goûte, Seigneur, on y participe au jour le jour. On a ce merveilleux privilège, Seigneur, que de pouvoir t'appartenir quand que on a placé notre foi en toi. Seigneur, croire en toi à cause de la croix, à cause de la mort que tu as souffert pour nous, pour l'humanité, c'est de la folie. C'est fou de croire que l'on peut placer notre foi à une personne qui est morte pour nous. Mais Seigneur, on croit que tu es Dieu, que tu as donné ton propre Fils qui est Dieu et qui est mort pour chacun d'entre nous. Et si ça, c'est de la folie pour les hommes, c'est de la sagesse, Seigneur, qui vient de toi, auquel on peut participer, auquel on peut bénéficier. On veut te louer pour ça, Seigneur. Que chacun d'entre nous, que tu viennes mettre ton doigt dans nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse faire le point, que tu puisses venir nous révéler ce qui dans nos vies doivent diminuer pour que tu grandisses, pour que tu prennes ta place, Seigneur, qui t'est due. Si ton propre Père t'a donné comme marchepied tes ennemis, qui t'a soumis toutes choses. Comment est-ce que je pourrais pas faire la même chose avec ma propre vie entière, Seigneur, entière? Et c'est ça qu'on veut faire. On veut continuellement, à chaque jour, Seigneur, se soumettre à toi. Parce que tu es non seulement notre Sauveur, mais tu es notre Seigneur aussi. C'est dans ton Fils qu'on te prie. Amen.